Je remercie Radio Okapi de me donner cette opportunité parce que pour moi c'est important d'abord de venir ici dans vos studios, de rencontrer nos staffs qui travaillent dans des contextes difficiles, de leur transmettre de vive voix pour leur dire bonne année 2019. Nous aurons, j'espère, une année meilleure que 2018. Et deuxième chose, je transmets ce message à tous ceux qui nous écoutent, à tous les staffs Nations Unies, mais à tous les Congolais qui sont dans une phase cruciale. Aujourd'hui, nous croisons tous les bras avec eux et nous leur disons, nous souhaitons vraiment de tout cœur à tous les Congolais et à toutes les Congolaises que l'année 2019 sera une année où ils pourront prendre leur élan, travailler sur leur développement et nous pourrons avoir des moments de joie, de paix et de sérénité.
Bien, c'était là des messages, des vœux de bonheur, de paix, de longévité, voilà, que l'auditrice était en train de donner. Eh bien, nous, ah, voilà, c'était plutôt là Leïla Zerougli qui donnait des messages à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et alors, nous poursuivrons cette émission Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons des fake news. Comment se prémunir des fake news dans les réseaux sociaux? Eh bien, vous savez, le phénomène des fake news ou fausses nouvelles a pris de l'ampleur depuis quelques temps. Dans les réseaux sociaux, on assiste à une diffusion massive d'informations biaisées ou fausses. Images transformées, affirmations sans preuve, erreur d'interprétation, manque de recul, manipulation pure et simple. Les fausses informations circulent sans rencontrer des freins. Elles sont généralement diffusées au sein des groupes et les normes des vues et des partages renseignent sur le nombre de personnes qui les consultent. Alors comment détecter les fake news et comment s'en prémunir? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Obulo Kwes, expert en sciences de l'information et de la communication. Obulo Kwes, encore une fois, bonjour et nos meilleurs voeux.
Merci beaucoup, Jody. Un meilleur vœu à vous aussi et à tous les auditeurs des radios Okapi.
Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par fake news au boulot, quoi, ça?
Fake news, ce sont des nouvelles, des informations erronées que, généralement, la source manipule au départ et la source voudrait, par ce fait, manipuler également ceux qui vont recevoir ces types d'informations. C'est ça qu'on peut appeler globalement fake news. Parfois, les fake news, c'est une information ou un renseignement dont le contenu n'est pas généralement exact. Ça veut dire pas totalement exact, soit partiellement, soit pas totalement. Toujours est-il qu'il y a derrière une intention de la part de l'émetteur, de la part de la source de l'information, de pouvoir manipuler le récepteur en lui donnant nécessairement des informations qui ne sont pas exactes. Voilà si on peut définir un peu globalement, de manière simple, les fake news.
Et qu'est-ce qui explique le développement ces dernières années de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, Google News? Souvent, il y a ces fausses informations ont pris de l'ampleur. Qu'est-ce qui explique cela?
Moi, je pense qu'il y a deux situations que l'on peut évoquer. D'abord, le fait que aujourd'hui, l'information n'est plus laissée seulement à la portée des journalistes, ça veut dire des personnes qui savent comment faut-il traiter l'information pour pouvoir diffuser au grand public. Aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, n'importe quelle personne se croit être investie de la possibilité de pouvoir diffuser, de pouvoir concocter l'information, de pouvoir l'élaborer. Ce qui fait que tous ceux qui le font ne sont pas nécessairement de bonne foi. Parce que si on rentre au départ au travail de ceux qu'on appelle les journalistes, les spécialistes de l'information, ils ont appris, ils savent que l'information ne peut pas la diffuser n'importe comment. Il y a des éléments auxquels il faut répondre nécessairement pour que l'information soit plus ou moins vraisemblable, que l'information soit utile à la communauté. Mais puisque aujourd'hui l'information n'est plus que de l'apanage de ces types de personnes, il se fait que d'autres en profite pour des intérêts, peut-être que inavoués, de pouvoir manipuler ainsi l'information pour pouvoir donner à la portée de tout le monde. Il y en a même d'autres qui deviennent simplement des relayeurs de fake news, ça veut dire des informations dont ils n'ont aucune preuve, mais puisqu'ils ont vu dans leur propre réseau ou dans leur propre cercle de réseau social, qu'est-ce qu'ils font? Ils le relaient. Et ce qui fait que ces fake news, finalement, se répandre, sans que l'on sache évidemment de terre où ça vient. Et cela répond vraiment à la définition simple de la rumeur, c'est que c'est une nouvelle qui n'a pas de source identifiée et identifiable. Mais la rumeur, comme les fake news, se répand de personne, d'une personne à une autre. Mais cette manière de cette propagation se fait également par ce qu'on appelle ajout. Chacun prend une partie de cette news, il ajoute du sien, n'est-ce pas? Et ce qu'il ajoute, il ne le prend même pas d'une source sûre lui aussi. Il invente, ou bien le fait qu'il a eu une information et qu'il ne l'a pas compris, il lui ajoute ses propres sentiments, ses propres besoins. Mmh. Et voilà comment ça se répand jusqu'à atteindre peut-être les confins du monde.
Et comme aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus accrochés à leur téléphone, donc les gens se partagent des fausses informations et ça circule très très vite.
Oui, c'est cela, comme je disais. Donc l'arrivée des smartphones avec les réseaux sociaux, ce que je dis, ça se répand. Et personne, bon, très peu de personnes, disons, surtout les personnes qui n'ont pas appris à pouvoir manipuler l'information, très peu de personnes se soucient de savoir d'où vient l'information. Si cette information représente quelque part ses propres besoins ou ses propres sentiments, comme par exemple maintenant au moment des élections, écoutez, si ça représente un peu un avantage pour mon candidat, que ce soit vrai, que ce soit faux, le plus important pour moi, c'est de diffuser pour me satisfaire moi-même en me disant « Ah, au moins, mon candidat est en train de gagner, même si je n'ai pas fait l'effort de savoir si ce que je suis en train de répandre est venu d'une source fiable ou une source ne fût-ce que identifiable. »
Voilà. Alors, d'après certains, la diffusion des fake news ou des fausses informations, c'est fait à dessein pour identifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs, par exemple sur un site. Et puis, bon, ça va générer aussi des recettes, surtout pour les sites qui sont monétisés. Plus vous avez des vues, plus vous gagnez en notoriété et puis vous gagnez aussi beaucoup d'argent.
Oui, ça c'est le deuxième versant justement de ces fake news. Il y a des types de sites, il y a des sites dont on connaît déjà, n'est-ce pas, l'orientation, où on vous dit que la plupart des informations qu'ils diffusent, c'est des informations qui sont fausses. Il y a des sites qui sont connus à travers le monde. Et puis, on tient leur part. Lorsqu'on reçoit, les spécialistes savent que ce site ici, c'est un site qui est fait pour les fake news. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas identifiés comme étant des sites qui font des fake news, mais qui font ce qu'on appelle les buzz. Ça veut dire qu'ils créent des événements autour. C'est des fausses informations, mais c'est tellement invraisemblable et c'est tellement bien monté. Et ils ont tellement un réseau d'expansion qu'ils ont plusieurs followers, plusieurs personnes qui accèdent au site, que comme vous le dites, je dis, cela augmente le trafic sur leur site. Et voilà, les statistiques gonflent immédiatement. À l'époque, on parlait de 10 lettres, voilà. Mmh. Les statistiques gonflent et ce qui fait, ça leur donne beaucoup plus d'argent. Même si, au départ, ça leur donne de la notoriété, mais c'est une notoriété qui n'est pas crédible parce que finalement, quand on découvre que ces informations sont fausses, ça peut faire l'effet contraire. Mais le plus important, c'est peut-être dans l'immédiat de gagner autant d'internautes, de gagner autant de followers, comme ça booste les chiffres et voilà, on a de l'argent au bout du compte.
Comment se prémunir des fake news dans les réseaux sociaux? Des fausses informations circulent de plus en plus dans nos différents réseaux. Comment détecter une fausse nouvelle? Comment s'en prémunir? Eh bien, c'est de cela qu'on parle aujourd'hui avec Obulo Kwesi, expert en sciences de l'information et de la communication. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Capi vous convie à déballer dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Comment détecter les fake news? Comment s'en prémunir? Nous avons Jeff Ngoy en ligne depuis Kananga. Jeff, bonjour.
Bonjour, monsieur Douti. Je vous fais le meilleur à tous.
Merci Jeff. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux fausses nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux?
C'est une chose qui semble être spéciale dans les chefs des étudiants, dans les chefs des Congolais aujourd'hui. Et surtout que nous avons entré sur Facebook, tout ce que nous trouvons, nous lisons et puis nous lançons sur la population. Et la population accueille ça pour autant faire le traitement. C'est un problème de savoir cette information provient d'où et de laquelle source. C'est ça où nous qui sommes intellectuels, nous devons faire l'analyse. C'est ça un scientifique. Un scientifique doit analyser une information. Je suis chef aujourd'hui dans une entreprise. Quand je reçois une information, je dois faire l'analyse pour prendre des décisions sur cette information-là. D'où nous devons beaucoup plus nous préserver de toutes ces informations-là qui circulent sur les réseaux sociaux.
Jeff, par exemple, à Kananga, quelles sont les nouvelles, les fausses nouvelles qui circulent plus dans les réseaux là-bas?
Oh, monsieur Jody, les informations aujourd'hui, c'est que Félix est le président. On l'a dit sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas encore publié les résultats. Vous avez des gens de FCC qui se lèvent par que Ramazani est déjà président, pendant qu'on n'a pas encore publié le résultat. Vous voyez, ce sont des informations qui sont en train d'être ramassées par-ci, par-là, et c'est vraiment qu'on a des radios trottoirs. On se réunit en dessous des manguiers, on dit, bon, c'est déjà président. Donc, il faut faire beaucoup d'analyse dans ce genre de choses.
D'accord, merci beaucoup à Jeff Ngoy de Kananga. Nous parlons des fake news. John Kabinda est aussi dans la même ville à Kananga. Bonjour. Jonas Kabinda, pardon.
Merci, c'est Jonas Kabinda. Merci, bonjour, monsieur Jody.
Bonjour Jonas, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux fake news?
Merci, courtoisie oblige. Je commence par vous présenter mes vœux le meilleur et bonne année à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Merci.
Par rapport à la préoccupation du jour, je suis en train de me rendre compte qu'actuellement, les réseaux sociaux sont allés au-delà même du travail qu'abattent les journalistes. Et la source qui devient, qui diffuse l'information à temps et à contre-temps et à chaque seconde. Bon, les préoccupations que qui me passent par l'esprit, actuellement, beaucoup de gens sont soit coupables ou victimes des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, je vais demander à l'invité. Par exemple, vous avez trouvé une information dans la boîte de Jody. Et Jody, on dit Jody a publié, on lit sur sa boîte. Alors que c'est pas Jody qui l'a fait. Et maintenant, comment, par exemple, devant la justice, Jody peut plaider non coupable, peut plaider son innocence face à cette information qui avait été trouvée dans sa boîte, alors que ce n'est pas lui qui en avait été l'auteur. Bon, deuxième préoccupation, quelle stratégie utilisent ces gens-là d'accéder à une boîte qui vous appartient, à toute évidence, alors que les informations qui y sont postées ne vous appartiennent pas. Voilà les préoccupations que j'avais. Du reste,
merci.
Les bonnes fêtes à tous les auditeurs.
Merci. Au bout de quoi, ça, vous avez la parole.
Ben oui, d'abord la première question qui a été posée, c'est celle de savoir comment pouvoir certifier, pas comment pouvoir savoir. D'abord, commençons par la différence entre les réseaux sociaux et tout le reste. Les réseaux sociaux, ce sont des groupes, en fait, c'est ça, appelons ça comme ça, des groupes de personnes, c'est à travers Facebook ou un autre groupe, c'est des groupes de personnes qui se partagent des informations. Et généralement, les gens, ou plutôt leurs comptes, sont certifiés. C'est le compte, par exemple, le compte de Twitter. Les comptes sont certifiés. Et parfois, on peut publier quelque chose sur le compte de quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'informatique. Ils fabriquent un compte qui n'est pas un compte qui est certifié et publient des informations auprès de quelqu'un d'autre. Et alors, cela peut arriver en justice ou quoi. La première chose, c'est de voir si le compte est certifié. Si ce compte-là est certifié et appartient à la personne, à ce moment-là, on peut penser que c'est la personne elle-même qui a diffusé. Sinon, n'importe qui, les gens qui sont spécialistes, peuvent fabriquer autant de comptes à votre nom, que ce soit des comptes Facebook ou des comptes Twitter, peuvent fabriquer des comptes au nom d'autres personnes et pouvoir publier tout ce qui leur passe par la tête. Mais si le compte est certifié, ça veut dire que c'est vous qui en avez le contrôle, les mots de passe, ainsi de suite. À ce moment-là, on peut penser que c'est vous. Alors, maintenant, si quelqu'un, comment les gens font pour pouvoir passer, peut-être entrer dans les comptes d'autrui, mais je peux dire que c'est des tricheurs, c'est des voleurs. Si on arrive, que quelqu'un puisse se prendre de votre téléphone ou votre numéro, passe par des subterfuges. En fait, c'est des tricheurs, c'est des personnes qui trichent, qui ont la possibilité de le faire, c'est des hackers, c'est des personnes qui connaissent l'informatique, qui trichent, pour pouvoir entrer sur les comptes d'autres personnes. Voilà un peu, si je peux répondre à cette question, la première question de manière globale.
D'accord. Alors, une autre question de savoir, il y a Jeff Ngoy qui a parlé de la source. Lorsqu'on est devant une information, on doit analyser, il y a certains éléments qui doivent nous permettre à reconnaître si c'est une vraie ou une fausse nouvelle. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les éléments qui peuvent permettre aux gens qui s'informent plus dans les réseaux sociaux à reconnaître les vraies des fausses informations?
Oui, d'abord, comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait une source identifiable. Lorsqu'il y a une source identifiable, ça veut dire qu'on ne peut pas dire un habitant de Kananga, nous on veut dire. Mais un habitant de Kananga, c'est tout le monde qui est habitant de Kananga. Il y en a combien à Kananga, les habitants? L'habitant doit être plus ou moins connu. Ça veut dire qu'il faut qu'il ne fût qu'une identification. Un habitant de Kananga, de la commune de Tandala, ces gens, ceci, par exemple, membre du FCC, déclare que Ramazani Shadari est, c'est pas moi, président, ce n'est qu'un exemple, ainsi de suite. Voilà. À ce moment-là, au moins, on a une petite élément qui montre que la personne qui donne l'information, on sait à peu près ce qu'elle est. Mais lorsqu'on dit globalement un habitant de Kananga ne veut rien dire en sorte de l'information de la communication, parce que, il y a, je ne sais pas moi, un lion, des habitants à Kananga. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons la confrontation des sources. J'ai reçu une information d'un habitant de Kananga. Comme je dis, il n'est pas le seul. Est-ce qu'à Kananga, il n'y a pas d'autres habitants qui pourraient permettre à ce que je puisse savoir s'il y a un autre son de cloche, si quelqu'un d'autre a vu autre chose que ce que j'ai entendu? Mais finalement, je dis, il faut aussi que l'information soit vraisemblable. Hein? Il y a des informations qui sont totalement invraisemblables. Je sais qu'on ne peut pas dire que tout ce qui arrive au monde est prévisible ou est prévu, mais il y a des informations qui sont totalement vraisemblables. Si on raconte qu'il y a une rupture de la route nationale numéro 1, et si on dit que cette route-là est rompue au niveau de Bukavu. Voilà, je donne un exemple. Mmh. Est-ce qu'à Bukavu, il y a la nationale numéro 1? À ce moment-là, dès qu'on le dit, vous vous posez la question, oh, mais la nationale numéro 1, ce n'est pas à Bukavu. Ça ne peut être qu'entre Mwanga, passant par Kinshasa, le Mandundu, ainsi de suite, par le Kassai. Et donc, il y a déjà des éléments qui montrent que cette information peut ne pas être crédible. Et déjà, ça pose problème. Et les spécialistes de l'information, généralement, ça, en disant non, ça ne peut pas être vrai. Troisièmement, la manière d'écrire. Vous avez suivi, j'espère que vous aussi vous avez reçu ça,
oui.
L'ancien ambassadeur de l'Union européenne qui a été, à qui on a demandé de partir, il semblait qu'il a écrit des choses en disant non, Kabila, je suis parti, voilà, voilà, et puis tu vas voir ce qui va t'arriver. D'abord, c'est écrit en quel français? Mais ces messieurs-là ouvrent quand même, c'est quelqu'un qui sait parler français. Et donc, vous regardez seulement la manière d'écrire, vous vous posez la question, est-ce que monsieur peut écrire ça? Voilà le message que le cardinal Monsengo a écrit contre ceci. On dit, est-ce que le cardinal peut écrire dans ce type de français? Voici quelques éléments, ils ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup, qui peuvent permettre déjà à quelqu'un de savoir que là, je crois que cette information n'est pas totalement dans la vérité. Il faut que j'essaie de trouver une autre source qui puisse peut-être me confirmer ce type de nouvelles avant que je ne puisse répandre, que je ne puisse répercuter aux autres.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs, Marcelin de Kananga et Kimo de Ouattara. Marcelin, bonjour.
Oui, c'est Marcelin de Goma.
Vous êtes plutôt à Goma, Tati. Voilà, Marcelin, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux fausses nouvelles, aux fake news sur Internet?
Oui, je suis très content, c'est Marcelin à partir de Goma, dans le Nord Kivu.
D'accord.
Le sujet est très important, plusieurs jeunes congolais, même africains en général, suivent toujours la situation aux réseaux sociaux.
Mmh. Mais
j'ai constaté ces derniers temps que plusieurs personnes sont trompées par ses voisins, ses cousins, en disant que voilà, un arbre est tombé dans le quartier, en disant que se sont disant qu'il y a un problème, mais quand les gens vérifient la situation, c'est faux.
C'est faux.
Alors, nous voyons que le problème c'est dans nos réseaux sociaux, c'est en général, plusieurs personnes veulent tromper les gens. Là où il n'y a pas la réalité, les gens font en sorte qu'ils puissent avoir des données qui sont fausses. Et quand nous voyons des gens qui tombent avec l'AVC, et c'est là qu'il y a l'origine de plusieurs personnes. Je me souviens un jour, je suivais le match de Mazembe, bon, quelqu'un a parlé que non, Mazembe a été parti. Or, nous suivons la radio. Quelqu'un est tombé et venu comme ça, puis David de l'information. Or, l'information était fausse. Alors, j'ai quelques questions à poser à notre invité.
Lesquelles?
Invité Escol. Oui, oui. La première question, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Je ne maîtrise pas bien la loi. Quelles sont les infractions qui sont prévues par la loi à une personne qui donne des informations fausses et qui peuvent entraîner à ce que les gens puissent mourir, par exemple 20 personnes ou 40 personnes en RDC? La deuxième question, est-ce qu'une personne qui donne l'information fausse à une personne, et on peut vérifier 4 jours que c'est vrai, est-ce que la personne a tort ou bien il a dit la vérité? Et si c'est vrai ou faux, il peut nous donner des éléments clairs et nous puissions avoir des réponses claires et aussi agissantes pour que la population congolaise et africaine puisse avoir une idée claire vis-à-vis des messages donc qui étonnent et qui donnent des maladies aux gens d'une façon plus que aux réseaux sociaux.
Merci Marcelin Thomas d'avoir appelé par rapport aux fake news. On va accueillir Akimo depuis Ouata. Akimo, bonjour.
Bonjour, je dis bonne année à vous et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonne année, Kimo. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux et sur Internet dans l'ensemble?
Merci pour ce sujet-là. C'est vraiment une vérité que nous sommes en train de vivre chaque jour sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, on essaie à évaluer, quand même, se rendre compte que les 4% des informations diffusées sur les réseaux sociaux sont presque des mensonges. Là. Alors, le plus souvent, pour vérifier si c'est vrai, il faut passer, vérifier sur la radio, sur le site de Radio Capi ou bien sur le site de RSI ou bien Voix de l'Amérique pour peser vraiment si l'information est réelle. Mais si nous revenons dans le contexte des élections où nous trouvons actuellement, vraiment, ça peut être triste de voir que ces mensonges-là, tel candidat appelle à voter plutôt pour tel, Fayoum demande à voter, Chadar demande à voter, Félix, il faut toujours vérifier. Alors moi, je me demande, si on revient dans la définition réelle de ces fake news-là, on se rend compte qu'en apparence, ce sont des informations qui sont vraies, mais au fond, dans le contenu, il n'y a rien. Alors je donne l'exemple, toujours dans le cadre des élections ici, mais nous pouvons dire la décision que la CENI avait prise pour recaler certains de nos amis de Beni et de Boutembo et de Yumbi semble même à fake news. Parce que en apparence, comme si c'est vrai, mais quand on entre au fond, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Merci et bonne année, j'ai dit.
Merci Kimo depuis Ouata. Voilà. Il y a Marcelin Degouma qui demande quelles sont les sanctions qu'on réserve à ces personnes qui diffusent les fausses informations et qui peuvent causer la mort de certains. Il a donné l'exemple de Mazembe. Quelqu'un a annoncé que Mazembe a été battu et un des fans de Mazembe a eu des problèmes de santé. Après, bon, peut-être la mort n'est suivie. Alors, quelles sont les sanctions réservées pour ces gens, des diffuseurs des fausses informations au boulot Kwesi?
Mais je sais qu'il y a une infraction de propagation des fausses nouvelles qui existe, hein, qui est dans le code pénal. Lorsque vous diffusez une fausse nouvelle et que cette fausse nouvelle cause des problèmes, eh bien, vous êtes responsable. Si vous êtes identifié, si c'est certifié que c'est vous qui avez diffusé cette nouvelle ou qui avez donné cette nouvelle. Si vous avez trompé quelqu'un, on le voit aujourd'hui, n'est-ce pas, pour aller loin, dans le procès contre les présumés auteurs de la mort ou de l'assassinat de deux experts des Nations Unies. Vous avez appris qu'il y a des gens qui avait des informations, qui avait donné une mauvaise information à ces experts, là où ils sont partis, ils ont trouvé la mort. Et ces gens sont aux arrêts, vous savez. Donc, propagation d'une fausse nouvelle, si ça a des conséquences, vous devriez être arrêté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le droit par rapport à Internet pose encore des problèmes dans notre pays. Jusqu'où, quel est le droit particulier par rapport à la régulation ou par rapport aux infractions sur Internet. Alors, si le Code pénal va considérer que toute propagation de fausses nouvelles, même sur Internet, est une infraction, eh bien, s'il y a la preuve que la personne qui a diffusé l'information a causé du tort ou que c'est l'information qui a causé du tort et que l'on connaît la personne, effectivement, la personne pourrait être sanctionnée. Mais je voudrais maintenant parler par rapport aux médias, par rapport par exemple à la régulation des médias. Je travaille également au CESAC et donc aujourd'hui avec la directive du CESAC sur la campagne électorale à travers les médias, le CESAC par exemple peut sanctionner le responsable d'un site d'information, si elle diffuse des informations qui sont fausses et que ces informations causent des problèmes, que ce soit un candidat, que ce soit l'acteur politique social, qui dit toutes des fausses informations qui peuvent entraîner des conséquences. Donc on peut sanctionner cette personne-là. Mais, comme je le dis, sur Internet, c'est très très difficile aujourd'hui. Le droit est encore un peu en retard pour pouvoir effectivement fixer vraiment les sanctions. Mais on peut parler de la cybercriminalité. On peut considérer que la personne a commis un crime, commis une infraction à travers Internet, même si ce n'est pas une infraction physique comme ça, eh bien on peut considérer ça comme étant de la cybercriminalité et le code pénal va certainement prendre en charge ce type de situation.
Voilà, on a suivi Kimo depuis Otolé. Le Otolé qui nous dit, lorsqu'il reçoit une nouvelle invraisemblable dans les réseaux sociaux, il prend toujours le soin d'aller vérifier, par exemple, sur les sites des radios Okapi ou des RFI, pour s'assurer que cette nouvelle n'est pas fausse.
Oui, oui, il sait bien, c'est un très bon comportement, une belle attitude, c'est celle immédiatement d'aller vérifier lorsque l'on sent en soi-même que cette information peut ne pas être vraie. Le problème, comme je le dis toujours, c'est que tout n'est pas vérifiable le même jour. Il y a des informations qui viennent se contre-vérifier 3-4 jours plus tard. Entre-temps, on aura peut-être déjà consommé. C'est pour cela qu'il faut une attitude toujours prudente. Lorsqu'on a reçu une information, surtout d'une source qui n'est pas très identifiée, qui n'est pas très identifiable, de prendre la précaution effectivement, d'aller voir si on peut trouver ailleurs. Parce que si on accepte déjà l'information et qu'il y a déjà des conséquences, même si 3-4 jours après, ça s'avère que cette information-là est fausse, vous aurez déjà consommé l'information, peut-être avec des conséquences. Supposez que vous soyez hypertendu et que l'on vous annonce, ou qu'un fake news annonce, une nouvelle qui n'est pas dans le sens de ce que vous attendiez. Un hypertendu peut facilement perdre la vie, par exemple, ou faire une crise. Mais lorsqu'on se rendra compte 4-5 jours plus tard que cette information est fausse, peut-être qu'on aura déjà perdu la vie de cette personne-là. C'est pour cela que l'on dit, prendre toutes les mesures pour que lorsque l'information vous semble invraisemblable, de pouvoir chercher à vérifier par une autre source, ça vous permet au moins d'en avoir le terrain, ou ne fût-ce que de douter en vous disant, bon, je n'ai pas obtenu la réponse, mais je doute quand même en attendant. Mais si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vérifier, ou si vous n'avez pas ce comportement, cette aptitude d'aller vérifier, souvent ça peut causer des conséquences qui sont fâcheuses et après, il sera tard, quoi. Ça sera irrécupérable.
Mmh. On va accueillir Faustin depuis Arou. Bonjour Faustin.
Bonjour, c'est Faustin Ouvoyangaba depuis l'histoire d'Arou, précisément de Tandoï. Alors, j'aimerais savoir tout simplement, de jouer aux réseaux sociaux, c'est bien, mais il y a des gens qui envoient de fausses informations sur les réseaux sociaux, tels que hier, lorsque le processus électoral passe, il y a des gens qui lancent déjà que non, il y a Martin Fayoum qui doit passer, et d'autres disent non, il y aura Chadar, Emmanuel qui va passer, d'autres polices, tout ça. Alors, c'est ce qu'il peut être, bon, ce n'est pas bon d'envoyer de telles informations sur les réseaux sociaux, lorsqu'il n'y a pas d'accord d'abord, on n'a pas encore eu de solution pour tout ça. Alors, c'est ce que nous contestons. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des sanctions qu'on peut lancer, par quel moyen pour approuver tous ces gens pour qu'ils soient saisis. Alors, pourtant, qu'ils soient dans différentes provinces, tels qu'hier, il y a de Kananga, d'autres sont en Ituri, donc on se chamaille, tout ça sur les réseaux sociaux. On ne sait pas ce qu'on devait passer sur les réseaux sociaux. C'est ça ce que je voudrais dire.
Merci Faustin depuis Yarou. Christian de Kananga, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous parlons des fausses informations dans les réseaux sociaux, sur Internet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces sujets?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ici à Kananga, les fausses informations, c'est vraiment comme Bibidia que la personne peut te donner chaque jour. Pourquoi? Parce qu'actuellement dans notre pays, on laisse n'importe qui diffuser une information, cette information sans avoir vérifié la source. Et puis, l'information qu'on diffuse, chacun partage de sa manière et il va aussi traduire de sa façon, il va aussi diffuser de sa façon. Et à mon humble avis, moi, je proposerais que pour qu'on puisse remédier à ça, il fallait qu'il y ait des mesures, il fallait qu'il y ait des sanctions pour celui qui compte diffuser une mauvaise information, qu'il soit sanctionné. Parce que une mauvaise information peut amager toute une société. Et j'aimerais aussi demander à notre spécialiste qui est sur les ondes, lui en tant que spécialiste, quels sont les remèdes qu'il propose à la population qui est en train de les suivre, les remèdes qu'il peut nous proposer pour savoir la mauvaise information et pour ne pas suivre cette mauvaise information.
Bien, merci d'avoir appelé Christian de Kananga. Veuillez calmer le bébé qui pleure, il y a un homme qui pleure à côté. Merci. Au boulot, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je vois que toutes les questions commencent à se recouper. Mais écoute, je vais donner une sorte de panorama sur cette problématique de cette news. D'abord, disons que pour savoir que c'est un fake news ou pas, cela peut aussi dépendre du niveau de la personne, de son niveau intellectuel. N'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui qui ont des smartphones, qui savent lire, qui savent écrire, mais qui n'ont pas un grand niveau de savoir d'abord les informations environnantes. Parlons par exemple du processus démocratique aujourd'hui. Mmh. On sait que c'est question des élections. Et celui qui est informé, qui sait comment s'organisent les élections et quelles sont les lois, comment les lois sont élaborées pour la publication des résultats, ne peut pas faire foi à quelqu'un qui dit qu'il y a tel candidat qui est passé. Parce que pour qu'un candidat passe, il faut que l'on ait fini les élections, qu'on ait fini la compilation des résultats. Non pas seulement la publication ou l'affichage dans les bureaux de vote ou les centres, il faut encore qu'on ait fait la compilation des résultats. Donc, c'est un processus. Ça peut pas venir immédiatement après les votes. Dès que quelqu'un a cette information, vous dites que tel est passé, la personne va dire que ce n'est pas possible parce que on n'a pas encore rempli toutes les autres étapes qui devraient être, disons, opérationnelles pour arriver à avoir des résultats. De deux, pour le processus électoral, on sait quelle est l'autorité qui peut annoncer les résultats. La seule autorité qui peut annoncer les résultats, c'est la Commission nationale électorale indépendante. Et donc, tout ce que les autres peuvent raconter, ça ne peut être que des petites tendances. Et dès que quelqu'un le comprend comme ça, quelqu'un annonce un vainqueur, les gens vont dire non, écoute, c'est pas ça. Donc, ça dépend surtout du niveau de la population. La plupart des personnes n'ont même pas l'information qu'il faut sur le processus électoral, ce qui fait que ces personnes n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité de pouvoir juger de la véracité ou de la pertinence de l'information ou non. Ça, c'est le premier niveau. Mmh. La deuxième chose, on me demande les remèdes. Je l'avais dit, je vais le répéter en deux, trois petits mots. Le premier remède, comme j'avais dit, c'est de savoir si cette information a vraiment une source. Parce que si on dit, on nous a dit, le « on » là, c'est qui? C'est quelle personne qui a dit? C'est quelle structure? Mais est-ce que la personne qui a dit a la compétence de le dire? Par exemple, en matière de football, c'est l'arbitre qui doit accréditer, accepter que le but, il y a un but ou il n'y a pas un but. Mais autour de l'arbitre, il y a d'autres officiels. Par exemple, aujourd'hui, quand un arbitre a mal fait son travail, on sait qu'il pourrait être sanctionné. Mais entre-temps, il a déjà fait son travail. Et donc, ce n'est pas un joueur qui peut dire que je confirme le but. C'est l'arbitre. Et donc, la source doit être une source crédible, une source qui est compétente pour ce genre d'information. Si c'est monsieur tout le monde qui donne une information qui n'a pas d'expertise, ça peut être un indice que ce n'est pas évident. J'ai dit, deuxième chose, c'est que est-ce que ce qu'on dit concorde vraiment avec ce qui se fait? Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mm-hmm. J'entends que c'est la plupart des amis qui sont dans les provinces qui appellent, ils vivent des réalités là-bas. Celui qui est à Arou, si on lui raconte qu'il y a un véhicule qui a connu un accident à tel pont, qui se trouve à 5-6 km de son localité ou de sa ville, et qu'il sait que ce pont-là ne se trouve pas à 5 km, ce pont-là se trouve plutôt du côté de Kwandroma, à 25 ou à 35 km.
Oui.
Déjà, le fait qu'on ait dit que c'est 5 km, c'est un indice qui montre que cette information peut ne pas être vraie. Il dit non, mais ce pont-là n'est même pas ici, ce pont-là est à Kwandroma. Et donc, il y a toujours des petits éléments qui montrent que ce n'est pas vrai. Trois éléments, je vais terminer par là, celui de Kwananga ou celui qui est à Arou. Si quelqu'un parle de votre ville, par exemple de Kwananga, et que son parler Louba, est celui de Mujimai, qu'est-ce que vous allez vous dire? Non, mais ici à Kwananga, nous ne disons pas, ici nous disons Muni. Là-bas, on dit ceci, cela, bim, par ici, de ce point-là. Mmh. Donc, vous sentez déjà à travers les éléments de langage que la personne qui parle ne parle même pas de Kwananga. Voilà. Donc, il y a plus d'éléments qui sont autour, mais ça, ce sont des éléments qui peuvent ressortir immédiatement quand on a une information. Et cela vous permet de douter et de commencer maintenant le processus de vérification auprès d'autres sources pour être sûr que l'information qui a été donnée est plus ou moins vraisemblable.
Voilà, ce sont les éléments qui nous permettent d'identifier une mauvaise nouvelle. Une nouvelle, on va accueillir Rigen depuis Idiofa. Rigen, bonjour.
Bonjour, monsieur Joly.
On vous écoute, nous parlons aujourd'hui des fake news, les fausses nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux, sur Internet. Comment s'en prémunir? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Monsieur Joly, si nous regardons bien les fake news dont nous parlons, il y a d'autres des informations qui circulent qui nous paraissent vraies. Parce que quand on regarde notre processus électoral, lorsqu'il y a eu report des élections, on a déjà propagé ça sur les réseaux sociaux pour dire que le président de la CENI demande 10 jours pour les reports des élections. Et un jour après ou deux jours, cela est arrivé vrai. Et je voulais peut-être poser la question à notre expert qui est là sur le plateau avec vous. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est pas seulement au Congo ou bien dans d'autres pays aussi, c'est comme ça. Si c'est seulement au Congo, je comprends que c'est la réalité du Congo, car il y a un adage qui dit une classe vaut ce que vaut, un maître vaut ce que vaut sa classe.
D'accord, merci. Dieudonné depuis Arou, bonjour.
Bonjour, Jean-Baptiste, Dieudonné, je suis en train de faire un peu de Arou, bâtiment de Kandé. D'abord, avant que je m'exprime par rapport au sujet, je vais juste
faire la même. Dieudonné, la communication n'est pas bonne, désolé. Oui. On est obligé de couper parce que la communication n'est pas bonne. Au bout de quoi, vous avez suivi Reagan depuis Idiofa. Il dit que parfois les nouvelles, il dit que d'après lui, toutes les nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux ne sont pas fausses. Il a parlé par exemple du report des élections qui a été annoncé dans les réseaux sociaux et plus tard ça s'est vérifié.
Oui, c'est pourquoi nous disons que ça, ce n'était pas un fake news. Dès l'instant où une information n'a pas le caractère d'être mensonger, ce n'est pas un fake news. Autrement dit ceci, quand nous parlons de fake news, ça veut dire que l'information est volontairement rendu fausse. Donc l'information n'existe pas, ou l'information existe, mais on y a mis des éléments faux. En ce qui concerne le report des élections, il ne fallait plus, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quelle était la source? Qui a donné cette information? Ça peut être une indiscrétion. Il existe des indiscrétions, ça veut dire quelqu'un a l'information, la personne fait passer cette information par une autre voie qui n'est pas la légale, n'est-ce pas, qui n'est pas la voie autorisée. Ça, ce n'est pas encore des fake news. Un élément de devient fake news que lorsqu'on a essayé de vérifier et qu'on a trouvé qu'il n'y a pas des éléments probants à l'intérieur. Mais toutes les nouvelles qui circulent ne sont pas nécessairement des fake news. Là, c'était une indiscrétion. Ça veut dire quelqu'un qui avait l'information, qui le savait, a fait une indiscrétion, a fait sortir cette information par une voie qui n'est pas celle-là. Et l'information s'est confirmée le lendemain. Et donc, dès l'instant où ça se confirme, on ne peut plus l'appeler fake news. Mais il y a beaucoup d'autres nouvelles, par exemple, qui donnent aujourd'hui Félix Tshisekedi vainqueur des élections, jusqu'à la proclamation, ça ne peut pas être vrai. Donc on passera comme ça 5 jours à attendre que les forces vérifient. Non. Alors que là, c'était une indiscrétion où quelqu'un a voulu friter, comme on dit en termes techniques, il a frité une information qui existe bel et bien, qui a bel et bien une source d'information existe en ce moment-là. Et donc, la différence, ce n'est pas nécessairement en termes de contenu, ceci peut-être en termes de temps. Si on vérifie une information par une source et que l'information s'avère qu'elle est vraie, elle n'est plus fake news en ce moment-là, c'est une vraie information. Quand on parle de fake news, ça veut dire qu'en termes de temps, en termes de contenu et en termes de source, on a tout fait, l'information a continué à s'avérer fausse jusqu'aujourd'hui, comme l'exemple de notre ami qui a donné de Mazembe. Donc le match s'est terminé, Mazembe avait effectivement gagné, lui-même a suivi à la radio que Mazembe avait gagné, alors que celui qui lui avait donné l'information par les réseaux sociaux, disait qu'il avait perdu. Alors, est-ce que c'est une exclusivité de la République démocratique du Congo? Ben que non, ce n'est pas une exclusivité de la RDC, ça se passe comme ça à travers le monde, partout et ailleurs, avec la différence que dans certains endroits, dans certains contextes, les fake news ne durent pas longtemps, parce que les gens ont beaucoup de possibilités de pouvoir vérifier. Les gens ont un certain niveau, ils ont déjà des informations, et ils peuvent détecter facilement pour dire que cette information ici n'est pas vraie et n'est pas fausse. On peut peut-être détecter après 2-3 heures, mais généralement les gens détectent en disant qu'elle est fausse. Mais chez nous, le grand problème, c'est que si notre ami qui est idiota, qui est un intellectuel, peut avoir la possibilité de vérifier, mais celui qui est à Banga, celui qui est à Yedo, n'a peut-être pas la possibilité de vérifier, il n'a peut-être que son téléphone, c'est la seule possibilité d'avoir l'information. Le temps de vérifier, ça pourrait prendre 5-6 jours, et la personne aura vécu pendant 5 jours dans une fausse information ou dans les fake news.
Bien, on va accueillir Marc Kibambi de Kananga et Michel depuis Ouvira. Marc, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Marc?
Moi, je vois que, à mon humble avis, je vois que ça devient une monnaie courante à la République démocratique du Congo parce que tout le monde paye les leaks de publier n'importe quoi, sans même la vérification. Mais on ne peut pas aller du coup pour diaboliser les publications parce que souvent, dans la plupart des cas, tout ce qu'on publie, on se réveille le matin lorsqu'on écoute l'arrivée des presse à la Radio Okapi, on voit que ce sont des histoires correctes. Mais à ceux qui publient des fausses informations, moi je demanderai à l'État d'abord de s'impliquer dans le sens de créer d'abord son site pouvant permettre à d'abord de supprimer, d'éradier les sites qui ne sont pas reconnus par les autres pays afin de décourager ces genres d'histoire. Et ceux qui publient, de les poursuivre, de les sanctionner et qui soit traduit en justice afin de se projeter ce genre d'histoire parce qu'on n'honore pas notre pays. Notre pays est déjà matière et ceux qui publient doivent d'abord voir et faire comprendre et vérifier d'abord les informations auxquelles ils doivent publier. Je vous dis et je vous remercie.
Merci Marc Kibambi. Michael, vous êtes à Ouvira, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Veuillez réduire le volume de votre radio. Vous allez suivre à partir du téléphone parce que là on a un retour à l'antenne. C'est pas agréable. C'est fait?
Oui, c'est fait.
D'accord.
Oui. Concernant les fausses infos,
oui.
Je ne sais pas si je peux appeler ça une fausse info parce que j'ai réussi ça à partir de mon compte des réseaux sociaux. Bon, il y a certaines personnes qui ont publié provenant de la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, qu'il y a certains centres de vote, là où il y a les députés affichés, qui sont les présidents à l'élection présidentielle. Mais en regardant, il n'y a pas même les photos
certains candidats.
De l'opposition. Par exemple, le monsieur Fayoulou, il n'est pas apparu dans des affiches. Je ne sais pas si c'est une fausse information, c'est une bonne information. Là, je ne suis pas à confirmer, soit que à négliger cette information. Monsieur l'invité qui a, j'aimerais aussi lui demander une question. Concernant les informations qui sont publiées, qui sont vérifiées par les ministres de télécommunications, soit qu'on publie seulement ça par hasard.
D'accord. Merci. Au boulot, quoi, ça?
Oui, deux choses que je voulais dire d'abord à celui qui est passé avant. On dit qu'il y a une explication de l'État pour pouvoir décourager toutes ces personnes. C'est vrai, mais il faut aussi éviter que l'on dise que l'État baisse ou, je sais pas moi, est en train d'annihiler ce qu'on appelle les droits des gens, leurs droits d'expression. Les gens ont le droit de s'exprimer, mais ce qu'on demande aux gens, c'est d'être honnête, n'est-ce pas? Mais les gens ont le droit de s'exprimer, ça fait partie de la liberté d'expression des gens. Entre amis, on peut aussi se tromper, on peut mentir à un ami, ainsi de suite. C'est la liberté d'expression. L'État ne devrait pas aller interdire aux gens de parler. Mais effectivement, on doit veiller à ce que ce qu'on dit, c'est vrai. Deuxième chose, c'est que, effectivement, il faut aussi qu'il y ait un plaignant. S'il n'y a pas de plaignant, si ça plaît à tout le monde d'avoir ces fausses nouvelles, de les écouter, de les consommer, ben, qu'est-ce que l'État va faire? L'État ne va rien faire. Il faut avant tout qu'il y ait un plaignant, que quelqu'un se plaigne, que cela lui a causé du tort, pour que, effectivement, le tribunal puisse examiner quelles sont les conditions qui ont causé le tort à la personne et quelle est l'infraction qui a été commise après ce tort qui a été causé. Parce que s'il n'y a pas de plaignant non plus, bon, écoutez, je dis que ça plaît aux gens, c'est peut-être que les gens sont en train de jouer là-dedans, peut-être que ça les déstresse, bon, c'est possible, c'est un peu cela.
C'est possible.
Alors, par rapport à notre ami de Ouvira, d'abord, il faut dire que, comme j'ai dit, si ce n'est possible, on sait que c'était sans les élections, toutes les nouvelles qui peuvent venir, il y a quand même un endroit où on peut aller vérifier. C'est la CENI. Et on a entendu le soir, la CENI a fait, le président de la CENI a fait le rapport de la journée. On n'a pas entendu cet incident-là, ça n'a pas été repris. N'est-ce pas? On n'a pas repris qu'il y a dans un bureau où le nom d'un candidat n'était pas sur les machines. On n'a pas dû parler de ça. Donc il y a la possibilité, si on écrit, de pouvoir demander d'aller peut-être à la CENI ou dans le rapport que va faire la CENI le soir, et de poser la question à la CENI pour savoir si cela est vraisemblable. Est-ce que d'abord c'est vraisemblable que dans toutes les machines, on ait les noms de tous les candidats et que seulement dans ce centre, dans ce bureau, il n'y ait pas les noms d'un candidat. Donc ça doit être un cas très marginal. Et si cela peut arriver, parce que ça peut arriver dans la vie, si cela peut arriver, on va se dire peut-être que c'est 0,001% de l'ensemble de ce qui est arrivé. Ce qui compte en plus de savoir, est-ce que c'est arrivé, comment a-t-on remédié? Est-ce qu'on a pu changer la machine ou est-ce qu'on a laissé ce vote-là comme cela? Si c'est resté comme cela, que prévoit la loi? Est-ce qu'on va annuler? Est-ce qu'on va... Donc c'est cela. Et quand on a ce type de nouvelles, il faut aussi aller au-devant, au-delà, pour essayer de savoir quels sont les scénarios qui sont possibles si jamais l'information s'avérait vraie. Voilà ce que je pouvais un peu dire globalement à nos amis qui ont posé des questions.
Oui, certains sont revenus plus sur les sanctions. Prenons l'exemple, par exemple, d'un groupe WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp, il y a un administrateur ou des administrateurs avec des membres. Et lorsqu'on constate, par exemple, qu'il y a certains membres qui sont bien identifiés, publient des informations qui ne sont pas vraies et qui ne concordent pas peut-être avec la philosophie du groupe, alors comme sanction, faut-il les faire partir du groupe ou bien il faut des rappels, des avertissements? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement au boulot, Quest?
Ben oui, ça dépend des groupes. Il y a des groupes qui ont un règlement. Moi, je suis dans plusieurs groupes qui ont un règlement où on vous dit, en cas de ceci, voilà ce que vous encourez. Certains administrateurs dans plusieurs groupes, ce qu'ils vous sanctionnent, ça veut dire qu'ils vous retirent peut-être pendant un moment ou d'abord ils vous font une sorte de rappel à l'ordre en vous disant que ce que vous diffusez ne convient pas à la philosophie du groupe. Si vous n'obéissez pas à ce rappel d'ordre, parfois on retire certains pour un ou deux jours. D'autres même sont suspendus pour des bons lorsqu'ils ont commis des fautes. Par exemple, moi je connais des groupes où vous ne pouvez pas insulter les gens. Si vous commencez à insulter, ben, on vous retire de ce groupe-là parce que vous ne respectez pas. Ça dépend donc des groupes, mais toujours est-il que la plupart des groupes aujourd'hui, parmi les plus connus au pays, les groupes qui sont très structurés, ont un règlement d'ordre intérieur, un règlement de fonctionnement, où on vous dit qu'en cas de ceci, vous serez sanctionné. Et pour la plupart des cas, cela arrive que des personnes soient sanctionnées pour n'avoir pas respecté ce que recommande le groupe.
Bien, on va accueillir Elameji de Lubumbashi et Pierrot Chimboulou, qui nous appelle de Chimboulou. Elameji, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, si vous avez une radio... Voilà, si vous avez une radio à côté, merci de réduire sensiblement les volumes ou de vous en éloigner clairement. Quelle est votre question par rapport aux fake news dans les réseaux sociaux?
Vous me suivez?
Oui, on vous entend très bien.
Voilà, je disais que le sujet est de la vie au quotidien, comme vous l'avez toujours soulevé, mais je préfère prendre un cas récent qui a été un coup de boutoir pour moi. je m'inscrivais dans la logique où le résultat de la de président devrait être disponible à minuit. C'est ainsi que j'ai veillé jusqu'à 2h du matin. Il y a un groupe où j'ai toujours fait confiance. En y entrant, je trouve que le président Chadar venait d'être président. Mon cher papa, j'ai eu à boire 3 tasses d'eau pour apaiser mes sentiments. Donc, ça m'a tellement essayé une gastrite là, juste à attendre à 7h du matin où je viens suivre la radio. On dira que la CENI a 6 jours pour donner les.
Alors, vous avez reçu donc, cette nouvelle-là sur WhatsApp ou sur Facebook?
Non, c'était sur Facebook. Et immédiatement, je suis rentré pour quitter ce groupe-là sans dire même au revoir, papa. Donc, l'invité venait de dire qu'il y a des sanctions pour les gens qui sont identifiés. Mais vous conviendrez avec moi que très tôt là, lui-même, Chada, il y avait annoncé qu'il serait président au soir des élections. C'est en sorte une fausse information, or qu'il est identifié. Mais je ne pense pas qu'il sera même inquiété. Donc si lui, tu prétends être un modèle pour la jeunesse congolaise...
Bon, merci. Donc vous, oui, vous pensez... D'accord. Donc vous avez reçu une information sur votre compte Facebook donnant la victoire à un candidat et cela vous a donné le vertige. Vous étiez obligé d'aller prendre 3... verre d'eau pour vous sentir un peu à l'aise. On va accueillir Pierrot qui nous appelle des Timboulou. Bonjour Pierrot.
Oui, bonjour. Bonjour les invités de la radio Captive. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonne année à tous.
Bonne année Pierrot. Nous parlons des fausses nouvelles dans les réseaux sociaux rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va terminer dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci bien pour aborder la parole. Moi, je voulais que l'invité nous dise pourquoi toutes ces fausses informations pendant qu'il y a un règlement publié déjà pour des fausses informations pour les métiers journalistes.
D'accord.
Là qui est mise en vigueur.
Merci. Merci Pierrot. Au bout de quoi, c'est en quelques secondes pour clôturer.
Oui, c'est-à-dire, je vais répondre vraiment à nos deux amis pour dire que celui qui a reçu une fausse nouvelle, par exemple, de la part de son groupe Facebook, il fait tellement confiance en ce groupe, mais heureusement qu'il a eu la possibilité de vérifier, il a quitté le groupe, c'est déjà très bon. Quant à un candidat qui dit qu'il va être élu, ça c'est de la politique, ça n'a rien à voir avec les fake news, ça il a fait, ça c'est des débats politiques, donc ça ne concerne pas.
Ça ne concerne pas.
Voilà. Alors qu'on n'utilise pas de sanctions, effectivement, donc c'est cela quoi. Donc
merci,
on peut mentionner que si effectivement il y a un règlement, et s'il y a quelqu'un qui se plaint, sinon on ne sanctionne pas comme ça, quoi. Voilà un peu.
Merci au boulot, Quest, expert en sciences et d'information et de la communication.